Vous écoutez France Culture.
7h39 minutes.
France Culture.
Et donc notre siècle n'a que 13 ans, et voilà qui est sorti au début du mois, aux éditions du Seuil, Le Capital au 21e siècle de Thomas Piketty. Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
Donc vous dites d'ailleurs qu'en fait il aurait dû s'appeler Le Capital à l'aube du 21e siècle. Mais enfin voilà, c'est une somme 800 pages qui tire les conclusions de 3 siècles de capitalisme, des études sur plus de 20 pays, et qui livre au fond, vers la toute fin du livre, quelques conseils, quelques idées pour les décennies, voire les siècles à venir. Certains qualifieront votre livre d'utopique. Vous-même, d'ailleurs, vous dites que c'est une utopie utile. En revanche, pour ceux qui aiment les prédictions, passez votre chemin. Thomas Piketty ne se pose pas comme le nouveau prophète de l'économie. On serait tenté de dire, en lisant ce pavé, qu'à l'heure des experts en tout, économie, politique, société, religion, cuisine, équipée, vous essayez de vous extraire de la masse des donneurs de conseils pour atteindre, au fond, un statut de théoricien, voire d'historien, davantage de votre temps. La crise de 1929 a eu son Keynes, la crise des années 2000 aura-t-elle sans Piketty? C'est la question que nous posons ce matin. Non, pour tout dire, Thomas Piketty, vous présentez. Vous avez, rappelons-le, joué un rôle majeur dans la fondation de l'École d'économie de Paris, et vous y êtes aujourd'hui professeur, et vous êtes par ailleurs directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. L'une de vos propositions phares dans ce Capital au 21e siècle, c'est serait au fond de créer un impôt sur la fortune mondialisée. Vous nous direz si l'appellation correspond à ce que vous avez souhaité faire. Et on y reviendra d'ailleurs avec notre co-invité aujourd'hui, Jean-Philippe Delsol. Bonjour.
Bonjour.
Avocat fiscaliste, administrateur de l'IREF, Institut de Recherches Économiques et Fiscales, qui publiait chez Jean-Claude Lattès en mars 2012 un livre qui avait pour titre l'affirmation suivante: à quoi servent les riches? Et je précise bien, sans point d'interrogation. Et c'est publié chez Jean-Claude Lattès. Peut-être d'abord proposer les choses, parce qu'il faut bien préciser que c'est un travail remarquable que vous avez fait là. Je le dis sans jugement politique ou d'ordre économique pour l'instant. Je parle du lecteur que j'ai été à lire votre Capital au XXIe siècle. Vous le vouliez clair, contrairement à ce que j'ai pu dire ça et là, il l'est. Relativement, plutôt très clair, hein, votre livre, Thomas Piketty. Mais surtout, il est quand même le fruit, et j'aimerais savoir un peu comprendre votre méthode, comment vous avez travaillé, il est le fruit quoi, de 15 ans de recherche et d'une volonté, semble-t-il, de plus faire un livre d'histoire qu'un livre d'économie, ou faire un livre d'histoire des sociétés et de l'économie. Mais c'est l'histoire d'abord.
Oui, j'ai essayé dans ce livre de raconter l'histoire du capital, des patrimoines et des structures inégalitaires qui vont avec, depuis la révolution industrielle, depuis le XVIIIe siècle, dans la mesure où les sources le permettent. Et donc, je précise tout de suite qu'on peut être en désaccord complet avec les conclusions que j'en tire pour l'avenir à partir de la page 700.
Et vous appelez vous-même au débat. Hein,
et néanmoins, trouver quelque intérêt aux 700 premières pages qui se contentent, si je puis dire, de raconter cette histoire, en partant d'abord des sources. C'est-à-dire que ce travail, effectivement, rassemble des recherches qui se sont étalées sur une quinzaine d'années, qui ont commencé avec la publication en 2001 d'un livre intitulé « Les hauts revenus en France au XXe siècle », où j'avais simplement exploité tout ce qu'on pouvait tirer des déclarations de revenus. Donc l'impôt sur le revenu en France est créé en 1914, loi du 15 juillet 14. Avant 1914, il faut bien voir que on n'a pas d'informations sur les revenus, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'impôt sur les revenus. Donc vous avez une contribution des portes et fenêtres, ça vous donne plein d'informations passionnantes sur les nombres de portes et fenêtres par département en France, ce qui n'est d'ailleurs pas son intérêt, ouais. Mais par rapport aux revenus, vous n'avez rien. Donc la différence entre le livre de 2001 et le livre d'aujourd'hui, c'est qu'au lieu de parler de la France, on a plus de 20 pays qui sont couverts. Donc grâce à de nombreux chercheurs, Emmanuel Saez pour traiter les États-Unis, Tony Atkinson pour le Royaume-Uni, je ne peux pas les citer tous, on est plus d'une trentaine à avoir participé à ça. Le travail sur la France a été étendu à tous les continents, et surtout, on est ensuite passé des revenus au patrimoine. Alors, c'est relié évidemment, les revenus et les patrimoines, puisque les patrimoines en partie s'accumulent à partir des revenus et de l'épargne à partir des revenus, mais ça pose quand même des problématiques différentes. Et puis, ça permet de remonter encore plus loin dans le temps, donc notamment en France, où les sources successorales sont de très bonne qualité dès la Révolution française, parce que la Révolution française ne crée peut-être pas une société idéale, mais elle crée un incroyable observatoire des patrimoines, parce que les patrimoines doivent être enregistrés, avec des taux de taxation pour l'enregistrement qui restent très modérés jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais qui au moins permettent au patrimoine de laisser une trace dans les archives. Donc concrètement, les archives successorales que nous avons exploitées, notamment avec Gilles Postelvinet, Jean-Laurent Rosenthal, permettent de mettre en perspective les chocs causés par les guerres mondiales, dans une histoire plus longue encore des patrimoines. Et ça permet de... C'est tout à fait indispensable pour mieux comprendre la repatrimonialisation des sociétés aujourd'hui et ce retour des patrimoines. Mais au-delà de ce thème central qui est dans le livre, je veux dire que j'essaye dans le livre de montrer que l'histoire des patrimoines, c'est autant d'histoire nationale aussi. C'est-à-dire que chaque pays a ses particularités. Le Royaume-Uni, avec cette incroyable accumulation de dettes publiques au 19e siècle, 2 années de PIB, donc 2 fois plus que l'Europe aujourd'hui. Les États-Unis, avec le rôle du capital négrier au 19e siècle. La France, avec les nationalisations de 1945. L'Allemagne, le capitalisme rhénan. Donc c'est toutes ces histoires nationales du patrimoine que j'essaye d'abord de décortiquer. Avec un thème qu'on retrouve dans beaucoup de pays, qui est un grand retour des patrimoines en ce début de 21e siècle.
Et puis un grand retour, dites-vous aussi, du coup, des inégalités. Quelle était aussi l'arrière-pensée éventuelle que vous aviez par rapport au titre auquel on pense évidemment immédiatement, le capital de Karl Marx? D'abord, vous faites un sort tout de même à ceux qui le citent souvent sans jamais quasiment l'avoir lu, et ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui le citent et qui l'ont lu. Je me souviens d'une sortie un jour de même de Michel Rocard, reprochant au fond aux socialistes français de n'avoir jamais lu que de même quelques extraits de très mauvaises traductions de Karl Marx, expliquant ainsi la mauvaise fortune régulièrement du Parti Socialiste sur les questions afférentes à la question de la fiscalité et justement du capital. Vous, quelle était votre arrière-pensée par rapport à Marx quand même? Enfin, vous le dites, mais je vous laisse l'exprimer.
Il n'y a pas vraiment d'arrière-pensée. C'est-à-dire, le but, c'est plutôt de reprendre cette question posée au 19e siècle par Marx, mais par beaucoup d'autres observateurs, mais de la reprendre dans une perspective pour le 21e siècle. Donc j'essaye de reprendre finalement, de refaire l'inventaire de ces questions, de ce qui a été dit par les uns, par les autres. C'est vrai qu'on a eu jusqu'ici beaucoup de thèses assez extrêmes qui se sont affrontées. Donc une thèse de Karl Marx au 19e siècle qui disait voilà, la dynamique naturelle de la répartition des richesses, c'est forcément une concentration croissante. Puis au 20e siècle...
Et c'est forcément la catastrophe.
C'est forcément la
Et
catastrophe.
Et vous dites que la catastrophe n'est pas arrivée tout de même.
Oui, moi j'ai malgré tout. Tout de suite, j'ai aucun goût particulier pour les prévisions apocalyptiques. Et il y a plein d'éléments positifs dans les évolutions actuelles, y compris ce grand retour du patrimoine a quelque chose de positif et de naturel. Je précise tout de suite, moi j'ai pas de nostalgie des années 50 où tous les patrimoines avaient été détruits par les guerres et où on se retrouvait avec un rapport capital-revenu très faible. Donc le livre n'est pas en train de dire c'est formidable, on n'a plus qu'à avoir des guerres et on va revenir à ce monde merveilleux de l'après-guerre. C'est pas... Donc dans ce retour des patrimoines qu'on a en ce début de 21e siècle, il y a quelque chose de positif, sauf que ça crée des structures inégalitaires qu'on croyait avoir oublié, c'est-à-dire qu'on croyait avoir dépassé. C'est-à-dire, il faut bien, peut-être le point le plus important du livre, et c'est qu'on a besoin de cette remise en perspective historique très longue pour comprendre le monde d'aujourd'hui, parce qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui, en début de 21e siècle, avec un niveau de prospérité des patrimoines qu'on n'avait pas vu depuis la Belle Époque. Concrètement, la totalité de ce que possèdent les Français, ou d'ailleurs les Européens, puisque c'est un phénomène européen, ça représente l'équivalent de 6 années de production nationale, 6 années de revenu national, c'est du patrimoine immobilier, du patrimoine financier, 6 années après avoir retiré toutes les dettes, parce qu'on parle beaucoup des dettes publiques et privées qui ne sont pas négligeables, mais on possède beaucoup, beaucoup plus que toutes nos dettes. Il faut remonter à la Belle Époque, à la veille de la Première Guerre mondiale, pour retrouver ce rapport de 6 années. Alors que dans les années 50, on était à 2-3 années, dans les années 80, à 3-4 années. Donc il y a un processus très lent de reconstitution des patrimoines. Peut-être le mécanisme très simple à avoir en tête, c'est si vous épargnez 10% de votre revenu chaque année, comme une famille ou comme un pays qui épargne 10%, pour accumuler 5 années de revenus en patrimoine, il faut 50 années. C'est-à-dire que ça prend très longtemps, ces mouvements d'accumulation. Alors, on avait cru pendant les Trente Glorieuses qu'on était passé un petit peu à un capitalisme sans capital et où les inégalités patrimoniales du passé, en particulier l'héritage, avaient disparu et on pouvait tous construire par soi-même et c'était merveilleux. Et bon, c'était peut-être merveilleux, mais c'était surtout parce que des patrimoines du passé avaient été dévastés. Et donc, ce sont les guerres qui ont fait table rase du passé au XXe siècle. Donc
c'est extrêmement important, ça, dans votre livre, tout de même, à chaque fois, l'importance des guerres, qui, aussi terribles soient-elles, aussi funestes soient-elles, remettre, entre guillemets, les pendules à zéro, quoi, les compteurs à zéro.
Mais de façon tragique, moi, je ne fais pas l'apologie de ce modèle de régulation.
Non, mais le fait est que, voilà, après les guerres, il se passe des phénomènes d'activité économique qui font que tout d'un coup, on se dit qu'effectivement, les sociétés sont un peu moins inégalitaires, qu'il y a une sorte de croissance qui profite un peu à tout le monde.
Oui, c'est vrai que la période des 30 Glorieuses était exceptionnelle d'au moins deux points de vue. Le premier, c'est que bon, l'héritage était faible, simplement parce que beaucoup de patrimoine était détruit. Donc dans les années 50-60, il y avait beaucoup moins à hériter que d'habitude, qu'avant la Première Guerre mondiale et qu'aujourd'hui. Et donc les gens accumulaient plus par eux-mêmes, devenaient propriétaires par eux-mêmes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à Paris ou dans les grandes villes, si vous voulez devenir propriétaire par vous-même uniquement avec votre salaire, vous avez intérêt à ce que ce soit un très bon salaire. Hein, et les donations, successions se rejouent un rôle pour les générations nées dans les années 70-80, beaucoup plus importante que pour celles de leurs parents et pour les générations nées dans les années 20-30, pour qui l'héritage comptait beaucoup moins. Et puis le deuxième leg des 30 Glorieuses qui a beaucoup marqué nos perceptions, c'est cette croissance incroyable de 5% par an pendant les 30 Glorieuses. Et ça a duré tellement longtemps, en gros de 1950 à 1980, qu'on comprend toujours pas qu'on en soit vraiment sorti. Et on se dit toujours, bon, on va y revenir.
Et vous dites c'est la croissance ne dépassera jamais 1 ou 2%.
Oui, ce rythme très fort de 5% par an correspondait à une situation de rattrapage. C'est-à-dire que l'Europe s'était suicidée de 1914 à 1945, non seulement avait détruit ses patrimoines, mais avait pris un retard de développement, notamment par rapport aux États-Unis, qui a été comblé de 1950 à 1980. Et c'est uniquement dans ce type de situation de rattrapage qu'on a des croissances aussi vertigineuses de 5% par an, ou de même en Chine aujourd'hui. Donc c'est très positif, ces processus de rattrapage, mais par définition, ça ne peut pas durer éternellement. Et dès lors qu'on est à la frontière technologique mondiale, il n'y a pas d'exemple de pays qui croissent à plus de 1% en production par habitant, ou 1,5% peut-être, de façon durable. Il faut bien se rendre compte que, en fait, c'est déjà pas si mal, parce que peut-être il faut mieux le mettre. C'est toujours très abstrait, ces débats sur le taux de croissance. On nous serine sur des petites variations au dixième de pourcentage près. Une façon plus concrète peut-être de voir les choses, c'est de le regarder par génération. C'est-à-dire que 1% de croissance pendant 30 ans, ça veut quand même dire que sur une génération, vous avez 30-35%, donc un tiers de l'économie qui a été renouvelée. Bon, c'est beaucoup, un tiers de l'économie qui est renouvelée chaque génération. Donc, il faut pas s'attendre à beaucoup plus. Et même pour avoir ça durablement, il va falloir quand même inventer des énergies plus propres que ce qu'on a là. Enfin, toujours est-il que 1% par an, c'est beaucoup plus faible que le rendement du capital. Et c'est ça la notion qui joue un rôle important dans ce livre. C'est que ce que rapporte un capital au cours d'une année en moyenne, même si ce n'est ne serait-ce que 4% ou 5%, et pour des très hauts patrimoines, ça peut être beaucoup plus élevé que ça, mais ne serait-ce que 4-5% par rapport à un taux de croissance de 1%, ça crée une situation très étrange dans laquelle le passé dévore l'avenir d'une certaine façon. C'est-à-dire que les inégalités de patrimoine et les patrimoines accumulés dans le passé, naturellement, se recapitalisent plus vite que la croissance, c'est-à-dire se recapitalise plus vite que n'augmente la production et donc les salaires, les revenus.
Le patrimoine engendre le patrimoine.
Et c'est une logique qui a été...
C'est L'Oréal. Alors, comme exemple,
on a cet exemple de cette fortune de Liliane Bettencourt qui passe de 2 milliards d'euros en 1990 à 25 milliards en 2010. Donc,
c'est Bill Gates
par plus de 10.
Qui passe de 3 aussi à 50, je sais plus.
Alors, ce qui est un peu perturbant, c'est que c'est vrai que la fortune de Liliane Bettencourt augmente très exactement dans les mêmes proportions que celle de Bill Gates sur les 20 dernières années, ce qui est perturbant parce qu'on aimerait tous que la fortune soit un peu plus affaire d'activité entrepreneuriale. Mais c'est vrai que passer un certain seuil, passer un certain niveau de patrimoine, l'accumulation, d'après toutes les données dont on dispose, parce que moi j'essaye surtout d'analyser les données que j'ai, si on me présente de données, je les analyserai tout aussi bien, j'ai pas d'a priori sur cette question, simplement je constate qu'on a un taux de reproduction des patrimoines qui n'est pas compatible avec la croissance économique à très long terme. Et donc c'est quelque chose en fait qu'on avait...
Et qui du coup crée les inégalités.
Qui tente à augmenter les inégalités. Alors après, il y a d'autres forces qui peuvent aller dans l'autre sens pour compenser, mais en l'absence de correcteurs, c'est vrai que cette force inégalitaire était celle qu'on voyait jusqu'à la... Il faut bien dire que pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, les gens s'étonnent souvent quand on leur dit durablement, le taux de rendement du capital peut être supérieur au taux de croissance. Mais il faut bien se rendre compte qu'il n'y a aucune raison logique qu'il en soit autrement et que pendant toute l'histoire de l'humanité, c'était évidemment le cas, puisque la croissance était quasi nulle. Et le rendement du capital, typiquement la rente foncière dans le capital terrien des sociétés rurales traditionnelles, c'était au moins 3, 4, 5% de la valeur de la terre. Donc par rapport à une croissance de zéro, forcément, c'était beaucoup plus élevé que le taux de croissance. Et ça n'a pas empêché l'humanité d'avancer, sauf qu'on avait des sociétés extrêmement inégalitaires. C'est-à-dire des structures de concentration du patrimoine dont on n'a pas envie, je crois, de reprendre le cours aujourd'hui.
À ce stade-là, mais encore une fois, je précise que nous aurons largement le temps, en deuxième partie, hein, d'entamer la question du débat et de la discussion, mais à ce stade-là, Jean-Philippe Delsol.
Oui, je reviendrai volontiers tout à l'heure sur ces problèmes d'accumulation de la richesse, mais d'emblée, d'abord, je voudrais saluer le travail qui a été fait par M. Piketty et son équipe. Je dirais que l'université joue son rôle à plein d'assimiler les données, de les analyser, de les produire. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. En même temps, je pense que l'ouvrage de Thomas Piketty n'attend pas la 750e page pour prendre position. Et moi, je suis très frappé, dans ce que vous dites à l'instant et dans votre ouvrage, de cette obsession égalitaire. Et je pense que c'est important d'en parler. C'est-à-dire que, pour vous, tout tourne autour du fait qu'il y a plus d'inégalités et c'est pour vous extrêmement important. Or, il me semble que, au-delà de l'analyse, qui est tout à fait intéressante et qui permet d'aller loin dans le débat, au-delà de cette analyse, ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir si on arrive à faire en sorte que tout le monde puisse s'enrichir. Et est-ce que ce sont les sociétés inégalitaires qui permettent l'enrichissement des plus pauvres ou les sociétés égalitaires? Et ça, je pense que c'est le vrai débat.
Oui, il faut que tout le monde puisse accéder au patrimoine. Mais comme je disais tout à l'heure, vous savez, aujourd'hui, pour accéder au patrimoine, notamment immobilier, mais globalement pour accumuler du patrimoine et éviter d'avoir à payer des loyers toute sa vie, vous avez intérêt d'avoir une donation et une succession. Si vous n'avez que votre salaire, vous avez beaucoup de mal
c'est
à accéder
pas tout
au patrimoine.
C'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs.
Je ne sais pas à quel niveau de salaire
aux États-Unis,
que vous rencontrez, mais vous savez, ce n'est pas si facile que
aux États-Unis, 70% des millionnaires sont des entrepreneurs qui ont créé leurs affaires, 30% des héritiers.
Oui,
en Grande-Bretagne, 80% des entrepreneurs, 20% des héritiers.
Vous inventez un petit peu des chiffres. Parce que moi, dans le livre, je cite des sources, je calcule ces chiffres et vous avez remarqué que ce n'est pas exactement les chiffres qui s'y trouvent. Donc, on ne peut pas juste sortir un chiffre, 80% d'entrepreneurs.
On va garder du grain à moudre pour tout à l'heure parce que, si j'ose dire, ça sera à 8h15 et que l'heure tourne. Il nous faut écouter Philippe Meyer et auparavant aussi, tout de même, Brice. Alors, vous avez lu attentivement ce Capital au XXIe siècle et avec nos invités, Thomas Piketty et Jean-Philippe Delsol, vous lancerez le débat.
Moi, je voulais poser la question, est-ce qu'un impôt progressif sur le capital au niveau international est crédible sans un gouvernement mondial?